A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En fait, quand j'ai commencé, j'avais honte de faire cette activité, ouais. Parce que c'était pas du tout comme c'est actuellement. Vraiment, YouTube, c'était... limite un peu niche et on pratiquait en même temps cette plateforme là, en tout cas pour quelqu'un de mon âge, c'était pas du tout aussi répandu et personne ne disait je veux être youtubeuse ou je veux être youtubeur, encore moins bien sûr je veux être influenceur, ça n'existait même pas. Et du coup quand j'ai commencé je me disais oh là là j'aime bien, en fait je sais pas d'ailleurs comment c'est possible, mais je me disais j'aime bien faire ça mais je veux pas du tout que ça se sache parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi quoi.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de vie qui a amené mon invité à son succès. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je crée des podcasts de discussion et d'interviews. Je vous invite à aller découvrir tout ça dans ma chaîne YouTube par exemple, mais aussi en podcast audio. Si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Enfin, tu pourras retrouver dans la description de cet épisode plein de liens afin de pouvoir retrouver mon Discord, t'abonner à ma newsletter où j'envoie régulièrement des nouvelles. Tu pourras aussi retrouver tous les liens vers mes podcasts et l'intégralité de mes contenus, ma chaîne Twitch, etc. Bon bref, je laisse tout de suite en compagnie de mon invité de la semaine.
Moi je me sens vieille donc autant me dire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Bah je sais pas, j'ai l'impression que on est déjà dans le deep. Écoute, j'ai l'impression.
Ah non mais on va y aller.
Je sais pas, je trouve que le j'ai l'impression d'avoir maintenant qu'il y a des gens sur TikTok qui ont 14 ans. J'ai l'impression que d'avoir 25 ans, ça fait de moi une vieille dame, quoi.
Je t'ai entendu dire dans un de tes podcasts, ouais, c'est important pour moi que je profite parce que quand tout ça sera terminé, quand j'aurai 35 ans...
J'ai dit une horreur, je suis désolée.
T'as dit 35 ans,
non,
j'ai
plus, fait... Non, je non, me rattrape quand je dis ça parce ouais. que maintenant je sais que c'est pas vrai.
Donc après t'as dit 60 et après pour t'as dit moi... non, c'est encore pire, 80.
J'étais
là, waouh. Mais en même temps, je comprends en fait quand t'as 25 ans que tu te dises, ok, 35 ans c'est...
Comme quand t'as 19 ans, quand t'as 18 ans, tu te dis quand j'aurai 25 ans, oulala, je serai mariée et tout. Ah, non, pas du tout.
Tu croyais ça, toi?
Quand j'avais 16 ans, je me disais, ouais, je voudrais avoir des enfants vers 24.
Ah ouais, tu t'étais fait des plans.
Ouais. Mais je crois que c'est plus d'actualité, et même pour notre génération, c'est plus d'actualité du tout. Pas pour moi, en tout cas. Ça ira.
Donc, Anna, t'es plus connue sur l'internet par ton pseudo Anna RVR.
Exactement, c'est un peu dur à prononcer.
Anna RVR.
RVR, il faut avoir. RVR. Si t'es belge, c'est encore mieux, mais...
Avant ça, t'avais lancé ta chaîne YouTube, c'était Miss Peachy 03, c'est
mauvaise
ça
info, mauvaise info, Mademoiselle Peachy 03.
Oui. Mademoiselle, pardon, quand je disais Miss, je voulais M2LE, c'est
oui,
ça.
Oui, exactement.
C'est toujours d'ailleurs l'URL de ta chaîne YouTube, c'est trop marrant.
C'est vrai? Ouais, je savais même pas. Oh là. Ah bah tu vois, mais c'est pas grave, ça laisse un peu d'authenticité.
Je suis très d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui, tu te décris comme quoi, créatrice de contenu, influenceuse. On va parler du statut d'influenceuse en ce moment. Tu vois, c'est chaud, hein.
Ok, ouais, c'est un peu compliqué. Bah justement, de base, le mot qui nous a été attribué, c'est influenceuse. Je sais pas trop comment c'est devenu ce mot-là parce que j'avoue que du coup, on va en parler aussi. Mais vu que ça fait 10 ans que je suis là, moi, de base, j'étais youtubeuse. Après j'étais instagrammeuse et youtubeuse et c'est devenu ce mot-là et j'avoue que maintenant vu comme il est connoté, ouais, il me correspond de moins en moins. Je comprends aussi pas forcément trop ce que ça veut dire parce que je fais pas cette activité pour influencer les gens, plutôt pour inspirer, mais après si on parle de consommation, de vente de produits et tout ça, bref. Mais du coup, créatrice de contenu, j'avoue que c'est mon mot préféré. Je sais pas si il est valable, mais je l'aime bien.
Bah si, tu crées du contenu.
Oui, mais en même temps, le gros titre, c'est quand même influenceuse.
Ah, mais en fait, pour moi, l'influence, ça vient des agences de communication,
ouais,
qui savaient pas trop comment faire pour décrire tous ces jeunes, ouais, et ces jeunes femmes. Souvent, c'était plutôt des jeunes femmes qui se lançaient sur Instagram. Mais tu vois, à l'époque, il y avait les blogueuses avant, ouais, ça. Bah, t'avais un blog, toi, je crois, d'ailleurs, au début, non?
J'avais un Skyblog, mais vraiment quand j'avais 12 ans. Donc, et puis,
j'ai vu un blog avec.
Ah ouais?
Ouais, j'ai vu.
Peut-être que j'avais un blog.
Mais genre en 2013, quoi.
Ouais, ouais. Bon.
Mais donc, tu vois, il y avait les blogueuses. Ouais. Et en fait, ils se sont dit, OK, comment on fait pour appeler.
Ah, parce que tu penses qu'on a différencié blogueuse et.
Ouais.
Ok.
Ouais, clairement.
Et donc, du coup, comment on appelle, ouais.
Bah, et aujourd'hui, de ce fait-là, c'est devenu un terme influenceuse où tu mets toutes sortes de gens dedans, quoi, tu vois. Ouais. Tout comme il y a plein de gens qui ont démarré sur YouTube et qui aujourd'hui, tu vois, préfèrent se dire réalisateur, tu vois, créateur de vidéos parce que c'est pas juste tu fais du contenu sur YouTube et c'est tout, quoi.
Ouais. Ok.
Et toi, t'as un peu de mal à vivre ce truc. Surtout que là, il y a eu un complément d'enquête qui est sorti il y a quelques semaines. Là.
Bah, j'en ai fait d'ailleurs un podcast qui va sortir bientôt parce que, en effet, c'est un peu moi pour retracer un peu le parcours globalement. J'ai fini mes études. Qu'est-ce qu'on retrace? Est-ce qu'on recommence à l'ancienne ou là, pour l'instant, on reste sur le.
Ah bah, dresse un peu le truc très rapide et puis après, on repartira dans le.
Rapidement, du coup, comme tu le dis très bien, j'ai commencé il y a 10 ans sur un blog, peut-être sur YouTube, c'est sûr, parce que à l'époque c'était les youtubeuses beauté qui étaient principalement catégorisées et les youtubeurs qu'on appelait, on disait qu'ils faisaient des podcasts, je sais pas comment ça se fait mais ça n'a rien à voir, qui faisaient de l'humour en fait. Et du coup je me suis mis dans la brèche des youtubeuses beauté parce que j'aimais bien filmer mes vacances, mes trucs, voilà, j'aimais bien tout ça. C'est devenu je sais pas comment, comme un hobby. Et en fait, c'est devenu ma passion. Et en fait, c'est devenu mon métier. Avant que ça devienne mon métier, j'ai décidé de faire des études quand même pour sécuriser tout ça et parce que j'avais envie encore d'apprendre. Donc, j'ai fait 5 ans d'école de communication. J'ai fait l'EFAP à Lyon. Et puis, en fait, mes études se sont finies il y a 1 an et demi. Et depuis, c'est mon métier full time. Je ne fais que ça. Et donc, ça me donne plus à réfléchir sur mon rôle dans ce milieu-là. Comment il évolue, quelle place je veux prendre, où est-ce que je veux que ça aille. Et du coup, là, le complément d'enquête qui est sorti dimanche dernier, qui est sorti récemment, m'a encore plus heurté. Ouais. Parce que ça remet du coup vraiment en question ce mot influenceur, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il ne faut pas séparer certaines choses, tu vois, voilà, ça me fait réfléchir, quoi.
D'accord. Mais alors, dans quel sens ça te titille?
En fait, j'ai besoin de légitimité. Et du coup, je me sens déjà quand j'en parle, parce que je traîne pas trop dans les sphères d'influenceurs, justement.
Ouais.
Moi, je suis lyonnaise et du coup, puis même j'aime bien rencontrer des gens tout le temps de n'importe quel milieu. Du coup, j'ai l'occasion de parler avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et souvent, quand on dit aux gens, quand les gens autour d'un verre te disent tu fais quoi dans la vie et que je dis je suis influenceuse, je vois que dans le visage, il y a un truc qui est souvent, c'est pas de l'admiration. Et ça m'énerve parce que j'ai fait des études, je sais que ce que je fais, ça demande du talent, que je réfléchis, je sais que je sauve pas la France non plus, mais je mérite que, tu vois, les gens me regardent pas avec mépris quand je dis que je fais ça. Parce qu'on a appris en plus de plus en plus à, je trouve, à tolérer tous les métiers, donc j'aimerais que ce métier-là en fasse partie. Et du coup, le fait qu'on soit associé avec des gens de télé-réalité que je respecte, et d'ailleurs j'adore la télé-réalité, donc j'ai pas de problème avec ça, mais qui utilisent leur plateforme pour faire des choses pas très correctes, ça me plaît pas, quoi.
Et quand tu dis pas très correct, parce qu'en fait, il y a vraiment toutes sortes de gens dans mon audience, si tu veux. Ils utilisent, tu vois, il faut expliquer un petit peu, mais ils utilisent des méthodes, notamment ce qu'on appelle le dropshipping.
Bah ouais, le dropshipping qui est la base de la problématique, qui est du coup le principe de plein de marques d'acheter des produits globalement en Chine et de les revendre 100 fois plus cher. Et du coup, d'utiliser la communauté d'influenceurs souvent axée télé-réalité pour en faire la promotion et pour les vendre. La plupart du temps, ces produits ou ces marques, elles sont même pas testées par les influenceurs. C'est vraiment de la vente à la chaîne pour eux se garantir un chiffre d'affaires à la fin du mois. Mais c'est une pratique c'est l'équivalent d'un téléachat, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, c'est vraiment la base du problème. Mais là, de plus en plus, on a, des systèmes de paris sportifs, des abonnements à des comptes qui font enfin c'est un milieu que je connais pas trop, mais où on demande à l'abonné de donner de plus en plus d'argent et on arnaque de plus en plus. Puis il y a tout le truc de l'exportation à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, c'est tout un dos qui fait que on se reconnaît plus du tout. Enfin, moi je me reconnais plus du tout dans ces gens-là et ça me saoule un peu d'être associé à ça, quoi.
Ouais. Remettre un peu de sens dans tout ce métier,
ouais,
quoi, c'est ça.
Sans dire de que tout le monde quoi ait un axe très intellectuel ou quoi, c'est pas du tout mon sujet parce que moi je sais que je fais du divertissement et que j'ai pas inventé l'eau chaude non plus, mais bon quand même. Mais ouais, et puis qu'il y ait de l'éthique et tout, quoi, pour qu'on soit légitime et qu'on soit correct dans notre façon de faire. Quoi.
Bon, tu dis, tu fais pas des trucs très intellectuels, t'as pas inventé l'eau chaude, mais en gros, ton succès, il tient aussi au fait que, je trouve, hein, moi de l'extérieur, que tu racontes ta vie depuis 10 ans et que tu la racontes de façon très sincère et authentique. Et alors certes, j'imagine que tu racontes pas tout parce que c'est compliqué aussi ce métier, il faut savoir préserver sa vie privée, etc. Mais je te vois aussi parler de sujets, bah, tu vois, t'as parlé de ton problème avec l'alcool, t'as parlé de ton opération.
Mon problème, non, ma relation.
Oui. C'est autre chose. Moi, j'y voyais un problème, mais bon, ça, c'est,
on en reparlera.
C'est ma lecture à moi. De ta chirurgie esthétique où t'as fait une réduction mammaire, et en fait, c'est hyper important d'en parler parce que c'est pas un truc dont on parle beaucoup. T'as parlé de quoi aussi? T'as parlé de ton métier, de ta vie d'influenceuse et de ce que ça crée chez toi, de tes relations de couple aussi. Alors, ça, c'est aussi, t'as fait un long podcast, on parlera après de ton podcast, où tu te livres, en fait, tu vois.
Ouais, c'est ça un peu ma direction artistique.
Ta ligne édito.
Exactement. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, et depuis 10 ans surtout. C'est parce que j'essaie d'être le plus authentique possible. C'est naturel pour moi de faire ça, et du coup, je pense que les gens s'identifient assez facilement, et que du coup, c'est agréable de voir quelqu'un de vrai, sans dire que, je veux pas pousser le truc du vrai à son, tu vois, à user le truc, mais juste d'être authentique et de dire les choses comme elles sont, et de parler de sujets, de parler de sujets que les gens peuvent comprendre, et de pas justement me déconnecter complètement de la réalité, parce que c'est pas intéressant pour moi, quoi.
Et aujourd'hui, t'as presque 600 000 abonnés sur YouTube, donc et c'est devenu ton métier, quoi.
Oui, exactement, c'est devenu mon métier. J'essaye, du coup, je suis principalement sur YouTube et Instagram. J'essaie de me diversifier un peu pour que ça perdure et pour que moi je m'amuse encore. Donc là, j'ai fait le podcast il y a 6 mois, ce qui est un format trop cool et je suis trop contente. Et du coup, j'ai envie encore de découvrir plein de trucs et tout. La route est longue, je pense.
Oui, et puis surtout, il faut... et pour moi, ça, c'est l'un des trucs les plus importants en termes de longévité pour les créateurs. Il faut réussir à passer d'une plateforme à l'autre.
Ouais,
quoi.
Complètement.
Parce que ça, c'est dur.
Je le vois avec TikTok.
Oui, c'est ça, tu fais une vidéo sur TikTok où tu dis j'ai l'impression d'être une vieille personne.
Ouais, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Je suis passionnée de TikTok, mais pour moi, produire des TikTok, je sens qu'il y a, alors qu'il y a des gens de 25, 30, 40, 50, 60 ans. Moi, je sens que, ouais, en effet, faut avoir une adaptabilité forte quand même pour perdurer. Et après, je pense pas que TikTok va casser ma carrière, mais en effet, faut s'adapter, quoi.
Faut réussir à.
Et se renouveler et réfléchir, quoi.
C'est dur, hein. Bon, merci en tout cas pour cette longue intro, mais on va...
Désolé, je me suis encore... Alors, non, ça va.
Ne t'excuse pas de parler, puisque c'est vraiment l'objectif de ce podcast.
En effet, mince.
J'ai tellement... C'est ouf, hein, parce qu'il y a tellement de nanas qui viennent dans ce podcast qui s'excusent de parler.
Ouais, bah ça c'est... Ah bah c'est une autre problématique. Ah, ça, c'est... Oh là là, on n'est pas sortis. Attends, je bois une gorgée.
Vas-y, bois une gorgée.
Mais oui, oui. Bah surtout que mon métier est aussi de parler, donc pas s'excuser de parler.
Oui. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, Anna, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans?
Je ressemblais à moi comme je suis actuellement, mais de 1m25. Et j'habitais dans la campagne lyonnaise avec mes deux parents, car ils n'avaient pas encore divorcé. Mon petit frère de 3 ans de moins que moi. J'aimais lire, j'aimais dessiner, j'étais très créative. Globalement, j'avais une très belle enfance. Je pense que je kiffais à 7-8 ans. J'étais vraiment pas problématique. Je m'amusais et tout, c'était sympa. Et voilà, quoi, tout allait bien dans le meilleur des mondes.
L'école
se passait très bien parce que j'adorais apprendre et j'adorais, ouais, comme je t'ai dit, j'ai appris à lire quand j'étais en moyenne section. Donc j'étais vraiment à fond les ballons. 7-8 ans, t'es en quelle classe?
CE2, CM1, tu vois.
Ah, ça commence un peu les problèmes. Ça commence un peu les...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les problèmes de où tu découvres un peu que tes camarades sont pas tout le temps très sympas ou qu'il y a de la rivalité, les trucs comme ça commence un peu. J'ai eu des petits problèmes vers cet âge-là d'ailleurs, de rivalité avec les autres filles, où on se tirait un peu dans les pattes. Moi, je me faisais un peu tirer dans les pattes par une fille qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Donc, comme quoi, j'ai un peu le syndrome du bourreau. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Je sais pas où je vais là.
Le syndrome du bourreau ?
Non,
de Stockholm.
De Stockholm, voilà.
Tu veux dire les otages.
J'ai adoré, exactement. On m'a bouli et je suis devenue meilleure amie avec cette personne.
T'as quand même à un moment donné mis les choses
j'ai
à plat.
J'ai mis les limites. J'ai dit, oh, doucement quand même. Et du coup, tout va mieux. Mais du coup, non, globalement, c'était une belle époque. Franchement, moi, j'ai pas du tout à me plaindre de mon enfance. C'était sympa comme tout.
Ok.
Et du coup, tout allait bien jusqu'à ce que le drame de mon enfance arrive. Mes parents ont divorcé. Mince alors.
T'avais quel âge ?
J'avais 10 ans.
Ok.
Et du coup, c'était... À l'époque, j'avais l'impression que c'était... que ça se passait bien. Et puis en fait, après, quand tu grandis, tu te rends un peu compte que quand même, il y a un peu des petites séquelles qui sont restées.
Ah.
Mais globalement.
Tu veux dire dans ton rapport aux garçons aujourd'hui, c'est ça ?
Je sais pas, faudrait que parce que je me psychanalyse beaucoup toute seule, mais peut-être qu'un jour il faudrait que je consulte quelqu'un qui analyse ça. Mais ouais, peut-être, globalement oui.
Ok.
Mais sinon, c'était. Ouais, toute mon enfance se passe très bien. Comme je te dis, je suis très créative. J'adore dessiner, je fais des cours de peinture et tout machin, je suis à fond dans ça. Et un jour à Noël, mes grands-parents m'offrent une caméra vers mes 12-13 ans. Et je commence à filmer un peu mes vacances et tout. Et je sais pas comment, il y a un ordi qui me tombe sous la main. Et je découvre YouTube et là, c'est la fête.
Ah ouais, comme ça. Ah ouais. Aussi simple que ça.
Bah vraiment. Mais en fait, c'est compliqué aussi de se rappeler de cette époque-là.
C'était il y a fort longtemps.
C'était il y a fort longtemps.
Bah à l'échelle de ta vie, c'était il y a longtemps.
Ouais. Oui. Mais du coup, ouais, Internet et tout, franchement, pas mal quoi. Heureusement que je suis tombée dans cette époque-là parce que, quoi que j'aurais peut-être été... écrivaine ou je ne sais quoi, mais j'avais besoin de produire des trucs, tu vois, de faire des contenus, peu importe lesquels. Et du coup, bah, voilà.
Mais pourquoi ?
Ah bah ça, j'en sais rien.
Tu sais pas ?
Bah je sais pas comment le...
Aujourd'hui, avec le recul, tu te rends pas compte ? Tu
bah,
sais pas pourquoi ?
Je pense que t'es naturellement, il y a des enfants qui sont sportifs, des enfants qui sont je sais pas, enfin bref, il y a plein de profils différents. Et moi, j'étais j'avais envie de parler et okay. de produire, tu vois, de faire des trucs, des dessins, des machins. Et du coup, la vidéo, c'est arrivé comme ça. Peut-être que je m'ennuyais un peu aussi. J'habitais à la campagne, j'avais pas trop le droit de sortir de chez moi le week-end. Et du coup, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, quoi.
Ok. Ta première vidéo, si je me trompe pas, c'est genre Outfit of the Day, c'est ça ou mais t'as
c'est la première
t'as 14
qui
ans,
visible.
C'est ça ah oui, c'est ça, parce qu'en fait...
Ah ouais.
Mais ça, on va en parler après des vidéos que t'as enlevées.
Mais franchement, comparé aux autres,
oui.
Je me trouve assez respectable parce que j'ai dû en enlever genre 4, 9. Non, parce que le vrai secret, c'est que j'avais une autre chaîne avant Mademoiselle Peach 03
ouais.
Et qui s'appelait genre User 400023. Et là, j'ai posté, mais parce que c'était vraiment... En fait, quand j'ai commencé, j'avais honte de faire cette activité ouais. parce que c'était pas du tout comme c'est actuellement. Vraiment, YouTube, c'était limite un peu niche et on pratiquait en même temps cette plateforme-là. En tout cas, pour quelqu'un de mon âge, c'était pas du tout aussi répandu et personne ne disait « je veux être youtubeuse » ou « je veux être youtubeur ». Encore moins, bien sûr, « je veux être influenceur », ça n'existait même pas. Et du coup, quand j'ai commencé, je me disais, oh là là, j'aime bien. En fait, je sais pas d'ailleurs comment c'est possible, mais je me disais, j'aime bien faire ça, mais je veux pas du tout que ça se sache parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi, quoi.
Ouais. Bon, tu t'étais fait bully en même temps au.
Bah ouais, en CM2,
en
donc
primaire,
j'avais pas envie de recommencer.
Peut-être que ceci explique cela.
Ouais, mais du coup, j'ai fait ce truc secret pendant un moment. À un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie de me faire une chaîne un peu stylée et tout. Donc là est née ma première vidéo qui devait être. Soit un tuto coiffure, c'est soit une tenue, ouais. Je sais pas, bref. Je me cantonnais un peu à ce qui se faisait à l'époque, ce qui est normal, en vrai, je savais pas trop.
Oui.
Je faisais un peu des vlogs de vacances et tout, mais c'est vrai que j'avais déjà un peu une appétence pour...
La beauté.
La beauté, ah, même si et actuellement, c'est plus du tout mon cœur d'activité. Ouais. Mais du coup, j'ai fait ça en secret pendant environ un an. En secret même de mes parents, de tout le monde, genre, personne savait ça.
Et donc, t'uploader des vidéos sur YouTube sans que tes parents le sachent ?
Les enfants sont très malins. Mais du coup, ça veut un peu dire... Mes parents me surveillaient bien. Enfin, mes parents contrôlaient mon activité sur Internet, vérifiaient, il y avait un contrôle parental partout. J'avais des horaires et tout. J'ai pas eu de téléphone jusqu'au lycée. Et je suis quand même aujourd'hui influenceuse, comme quoi...
Bah oui.
Vous limitez vos enfants,
tout
mais
arrive.
Ils feront ce qu'ils veulent. Tout arrive pour une raison. Et un jour, voilà, redrame. quelqu'un découvre que je sais pas comment, mes copains étaient un peu sur YouTube pour regarder des gamers, des trucs comme ça. Et dans leur fil de recommandations, mon visage apparaît. Choc. J'arrive au collège le lendemain. Et là, je suis...
C'était fini, tout le monde savait.
C'était fini. C'était fini. Et en même temps, je sais pas comment c'est passé. Les gens étaient un peu en mode... Ok, bon, bah ok, ils ont un peu rigolé pendant 2-3 jours. Et après, il y a eu un autre truc, donc c'est passé. Et je suis devenue du coup la vidéaste du collège. Je faisais les films de fin d'année et tout. Je mettais sur Facebook et du coup, les gens, ils se voyaient, eux, ils kiffaient. Et donc, ça s'est bien passé. Et donc, j'ai vécu une fin de collège cool.
Voire même, t'étais valorisée pour ça, quoi.
Un peu stylé, ouais.
Et
ouais, c'est vrai. Du coup, j'étais un peu... Finalement, j'avais pas tant à me cacher pendant toutes ces affaires, ouais. Tout ce temps-là. Donc ça, c'était très sympa.
Parce qu'en fait, en vrai, quand t'es au collège, tu cherches à être populaire, quoi.
Bah ouais, mais... Ah non, parce que moi, attention, j'étais tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Justement, je crois que j'avais peur de pas être populaire, parce que j'étais pas trop populaire. Du coup, j'étais un peu avec mon groupe, on était 4-5 amis, et on était un peu les rebelles. Ça veut dire que j'écoutais Tokyo Hotel et Paranormal...
De quoi ?
Comment il s'appelle, ce groupe ? Paranormal, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? La dame, elle est rousse avec des cheveux... Paramore. Oh putain. Ouais, j'étais dans Muse et tout. J'avais un groupe de musique où je chantais. Vous pouvez l'entendre à ma voix. Je ne suis actuellement pas chanteuse.
Et ouais, t'as une chouette voix en plus.
Mais pour parler, pas pour chanter.
On va parler de ton podcast.
Mais du coup, ouais, j'étais vraiment une roqueuse et tout. J'étais en mode, je déteste les filles, je déteste tout le monde. Les garçons, ils sont nuls. Je déteste la société. Allez tous vous faire foutre. Et du coup, en fait, quand les gens, ils ont découvert que... Enfin, quand j'ai découvert YouTube, déjà, ça m'a décoincé un peu. Et quand les gens ont découvert que je faisais ça, ils se sont dit, c'est un peu sympa. Je me suis un peu ouverte au monde et ça allait mieux. Ma crise de « je hais tout le monde » est passée.
Ok.
Donc, c'était sympa. Du coup, je suis pas du tout devenue populaire parce qu'en plus, ce terme veut rien dire, je trouve. Et souvent, en plus, les populaires du collège, actuellement, ils sont pas forcément au top et ils ont pas été très sympas au collège. Donc, je pense qu'ils payent un peu les pots cassés, tu vois.
Tu veux dire quand ils deviennent adultes ?
Exactement. Ouais. Ça devient plus trop les populaires.
Dans ton année, en tout cas,
dans mon cas, ouais. Et globalement, quand j'en parle autour, c'est souvent le cas. Ouais. Les populaires, souvent, ils ont eu leur temps et après, voilà, ils déchantent.
Oui.
Après avoir été méchant avec tout le monde. Donc, après, il y a des populaires très sympas. Je sais pas si c'était ton cas.
Non, j'étais pas trop populaire. Ouais. Ah ben, y a un glow-up qui se fait à un moment donné. Et en fait, quand t'en prends un peu plein la gueule, j'ai l'impression, toute ta jeunesse, peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, en devenant un adulte, je vais faire en sorte d'être une belle personne, quoi. Faire un peu de bien dans le monde, quoi. C'est pas déconnant.
Exactement. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais du coup, heureusement, comme ça, ça a fait en sorte que j'ai envie d'être un peu gentil. Et du coup, après, re-catastrophe, le lycée. Alors là, parce que moi j'étais dans un collège de campagne, donc ça veut dire qu'on était tous un peu pas un peu avec une fourche, mais tu vois, on était un peu rustres et tout. Enfin, on était tous très simples. Et je suis allée dans un lycée après un peu plus haut de gamme, avec d'une plus grande ville, avec beaucoup plus de monde. Donc j'ai dû recacher.
T'étais à Lyon ?
Non, j'étais pas à Lyon. J'étais encore en banlieue de Lyon, mais quand même, j'étais à Saint-Genis-Laval. Je sais pas si.
Je connais pas à ce point-là la banlieue de Lyon, mais.
Ouais. Mais du coup, voilà, les gens étaient un peu plus happés et tout. Et donc là, j'ai dû, encore une fois, redevenir Hannah Montana et avoir deux visages. Je mettais ma perruque quand je rentrais chez moi et je faisais des vidéos sur YouTube. Et là, redrame.
Tes parents redivorcent, non ?
Ah non, non. Ah non, quand même.
Bah, ils auraient pu, je sais pas.
Ouais,
quel est le drame ?
Eh bah, ben, les gens redécouvrent pour la deuxième fois que je suis sur YouTube. À la fois, foutez-moi la paix.
Mais t'avais combien d'abonnés à l'époque ?
J'avais 12 000 abonnés exactement, okay. Je me rappelle, parce que le jour où les gens ont découvert que j'étais sur YouTube, j'étais dans une classe où je connaissais personne, et je me suis assise du coup toute seule devant, et j'ai entendu derrière moi « Coucou tout le monde !» Du coup j'étais « Oh non, pitié !» Parce que vraiment à l'époque c'était dramatique, je sais pas, si tu le remets dans le contexte du lycée, t'as vraiment peur du regard des autres, t'as envie de pas trop faire de vagues, moi je trouve que j'étais vraiment « Bon, je vais faire mon truc, si ça va, ça va, j'ai pas envie que les gens me regardent trop non plus. »
Okay.
Et du coup, coucou tout le monde derrière moi. Donc voilà, les garçons de la classe un peu stylés, qui étaient vraiment... Regarde là, la honte, elle est sur YouTube et tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, c'est fini. J'ai fait une vidéo en noir et blanc où j'ai dit, les amis, je vais faire une pause. À l'époque, ça se faisait vachement.
Ouais.
Je fais une pause des réseaux, on se retrouve peut-être bientôt. J'ai tout supprimé.
T'as supprimé toutes tes vidéos ?
Ah, je me suis dit, c'est mort, je vais pas revivre ça, c'est horrible. T'as des fourmis dans la jambe ?
Non, pas du tout. C'est, et... gentil de... c'est gentil de t'occuper de moi.
Et mon père m'a dit, Anna, assieds-toi, tu vas pas arrêter, ça se voit que ça te plaît, s'il te plaît, continue. J'ai dit, je vais réfléchir. En fait, je me suis rendu compte que les gens savaient. Donc au final, que je le fasse ou que je le fasse pas, le mal était fait.
Ouais.
Je sais pas, j'en ai un peu parlé avec ces garçons qui se moquaient de moi, parce qu'ils étaient quand même sympas. Et ils m'ont dit, ah, t'as quand même 12 000 abonnés et tout.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en
pas
fait...
Mal. Ouais, c'était pas mal à l'époque. Et du coup, je me suis dit, je crois qu'il y a une brèche où ça peut être stylé, et je peux vivre avec sans me faire jeter des cailloux dessus tous les jours. Donc vas-y, je recommence. Et pareil, j'ai pris ma caméra pour aller au lycée un jour, j'ai fait genre 24 heures avec moi. J'ai vu que tout le monde trouvait ça un peu rigolo de se montrer et de que 12 000 personnes les voient.
Ouais.
Et voilà, c'était reparti et ça se repassait bien.
Donc et finalement, du coup, ta caméra est un peu ton meilleur ami, quoi.
Exactement, ton... in fine. Alors que j'avais peur que ce soit la raison pour laquelle j'allais être trop différente. Et je pense que du coup, ça a forgé aussi un côté un peu où je suis un peu... Je m'impose un peu, pas je m'impose, mais j'aime bien voilà, faire en sorte que peu importe si t'es content ou pas content de ce que je fais, voilà, je serai là quoi qu'il arrive, parce que j'ai dû un peu le faire à un moment et je me suis rendu compte que ça finissait par bien se passer, donc voilà, c'est pas grave quoi.
Tu veux dire que ça t'a aidé après, parce que j'imagine que quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu prends forcément tôt ou tard des shitstorms et des sales commentaires, ouais, et des machins, ça t'a un peu aidé à les gérer, ces sales commentaires ?
Ça m'a aidé un peu à les gérer, le fait que aussi j'ai dû tu vois, l'intégrer dans ma façon de vivre depuis que j'ai 14 ans. Bah en fait, c'est devenu un automatisme de les accepter et de me dire bon, il faut faire la part des choses parce que sinon je vais pas m'en sortir.
Ouais.
Donc de toute façon, fine quoi, c'est pas grave de toute façon, et puis je me rendais bien compte que c'était des gens qui étaient hors de ma réalité, au pire je voyais même pas leur visage et tout, que donc du coup de toute façon, c'était pas grave. Là, j'avoue, alors que j'ai 25 ans et que ça fait 10 ans que je fais ça, ça recommence à me saouler parce que je vois que c'est des gens qui pas me ressemblent, mais tu vois, j'ai de plus... Enfin, comment t'expliquer ça ? Je tape un peu mon nom sur Twitter en indirect pour voir...
Il faut jamais faire ça.
Ah oui, mais moi, je veux savoir.
Mais pourquoi ?
Bah, pour pouvoir m'améliorer ou je sais pas, je veux savoir.
C'est Twitter, ils veulent pas que tu t'améliores.
Si, je sais pas, moi, je crois en la bonté de l'homme, on va y arriver.
Twitter. Désolé, Twitter, s'il y a des gens sur Twitter.
En
mais
plus, j'aime bien Twitter, ils sont comme... drôles quand même. Mais...
Bah, ça dépend qui sur Twitter. Mais...
Ouais, tu crois qu'il y a une dark side ? Bah ouais,
il y a une dark side dans tous les réseaux. Et en fait, et surtout pour moi, en fait, ça dépend de qui tu follow. Mais c'est sûr qu'il y a des gens marrants sur Twitter, mais il y a aussi beaucoup de haters, tu vois. Et en fait, venir taper ton nom, ça va forcément faire du mal, non ?
80% du temps, c'est positif.
Okay.
20% du temps, c'est pas positif. Mais du coup, je trouve que moi, dans notre vie, moi en tout cas, quand je rencontre quelqu'un et tout, je communique avec les gens, je parle, j'essaie de comprendre, de mettre dans les chaussures des gens quand je comprends pas quelque chose, machin. Donc j'essaie de fonctionner comme ça avec les gens qui sont mes haters, pour le dire grossièrement, de discuter pour voir sur quoi on n'est pas d'accord et comment on peut faire avancer les choses et tout. Et du coup, des fois, je me heurte à la bêtise humaine et ça n'est pas possible d'avoir une conversation constructive avec des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de conv constructive et du coup, bah, c'est frustrant, quoi.
Et de... Est-ce que t'es un peu encore dans ce truc de j'aimerais bien que tout le monde m'aime ?
Bah je sais pas, de validation un peu. Ouais. Je sais pas, je croyais que non, mais peut-être un peu. Je voudrais pas que tout le monde m'aime, mais j'aimerais bien. Je sais pas comment dire, j'aimerais bien comprendre tout le monde et tu vois que.
Et que tout le monde te comprenne.
Ouais, exactement. Parce que je crois que c'est possible. Je me dis qu'en communiquant, tu peux comprendre tout le monde. Mais en fait, je crois que sinon, enfin, je crois que ça va pas être possible parce que je vais m'arracher les cheveux à un moment donné, donc il va falloir accepter que.
Bah, si t'as 600 000 abonnés, ça veut dire que t'as 600 000 personnes. Et mais... t'imagines, c'est quand même beaucoup de Stade de France, tu vois. Et en fait, tu parles dans un micro, il faudrait que tout le monde soit OK avec toi. C'est impossible.
Je pense qu'il manque de la maturité pour comprendre. Avant, je m'en souciais pas.
Putain, mais je te trouve vachement mature aussi par rapport à ça. Hein. Mais après, c'est peut-être parce que tu fais ça depuis 10 piges, mais.
Ouais. Ouais, mais je pense qu'avant, je m'en souciais pas et je faisais ça en mode, je réfléchissais pas trop au truc, tu vois.
Okay.
Je me suis jamais dit, enfin, tu vois, je faisais ce que je faisais sans trop me poser de questions. Maintenant que c'est mon métier, je sais pas, je conscientise beaucoup plus.
Okay.
Et du coup, en effet, je me heurte à ce truc de pas tout le monde est d'accord et pas tout le monde va vouloir faire comme moi, penser comme moi. Et en fait, même sans dire que la personne qui aime pas ce que je fais et qui va dire Anna, parce qu'en plus je trouve que c'est injuste aussi, enfin ça me saoule, je trouve que c'est injuste.
Ah, souvent,
ils savent pas ce qui se passe dans la vraie vie et tout, j'aime pas, je suis pas d'accord. Mais après, c'est la réalité, quoi.
C'est ce que j'essaie de faire avec ces podcasts, en fait. C'est d'essayer de montrer aux gens aussi ce qui se passe dans la vraie vie, en prenant un peu le temps de discuter, etc., quoi, tu vois. Donc,
Bah, c'est, oui, et je crois que c'est un format qui est bien pour humaniser un peu les gens. Ouais. Ce qu'on perd un peu avec Instagram et tout, où tout va très vite. Souvent, moi, j'ai des retours, de gens pareils qui disent, ça fait du bien de, que tu parles plus de 3 secondes en story, quoi. Donc, c'est cool. Continuons à le faire.
Mais donc, tiens, on va parler du podcast tant qu'on y est. Mais en fait, tu as lancé ce podcast il y a quelques temps qui s'appelle Contre-soirée.
Oui.
Qui est un projet où, en fait, tu n'as pas forcément de ligne édito, c'est juste des trucs que tu as envie de raconter. Mais alors, ça m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit, c'est marrant que tu t'en fasses un podcast alors que tu as une chaîne YouTube avec 600 000 abonnés et que tu te dises, bah non, en fait, là, je vais couper la caméra et je vais juste parler dans un micro.
Oui, parce que je me suis rendu compte. J'ai découvert le podcast, du coup, il y a un an et demi, 2 ans. Ouais. Il y a 3 ans, j'ai découvert et je me suis dit, parce que j'étais encore dans le truc de l'image et tout. Ouais. Il y a un an et demi, 2 ans, j'ai découvert le podcast et j'ai aussi découvert ce truc de un peu, pas de self-care, mais de j'aime bien marcher toute seule le dimanche après-midi. J'aime bien passer du temps à réfléchir et tout, pas que écouter de la musique.
Ça, c'est la vie d'adulte qui arrive, hein, je te promets.
Mais c'est génial, j'accepte. j'ai aussi découvert Transfert, qui a été mon premier truc où j'adore écouter. J'adore les trucs du quotidien. Dans les films et tout, je m'en fous de la science-fiction. J'aime bien les trucs où je peux me reconnaître, m'identifier, ce que je fais dans mon contenu.
Ce que tu fais.
Et du coup, Transfert, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien d'écouter les gens raconter un truc qui leur arrivait dans leur vie. Donc je me suis dit, j'ai un peu envie de faire la même chose parce que la YouTube, il faut que tu te poses. Enfin, même si t'as ton téléphone et que tu te balades avec, c'est quand même de l'image. Faut que tu t'asseyes, que tu te concentres sur une image. Et je trouve que je me suis dit à un moment, c'est intéressant d'utiliser l'image pour faire passer d'autres messages et faire d'autres contenus comme un contenu où je peux faire pendant une semaine, je t'emmène avec moi pour. J'ai fait un contenu la dernière fois où j'ai montré, je parlais de ma réussite au permis, où j'ai documenté tout mon passage du permis et tout. Là, je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'image. Et je trouve que sur les contenus où tu as envie de t'étaler, de raconter, de parler plus profondément, c'est sympa de mettre des écouteurs ou de prendre la voiture et de pouvoir écouter juste, sans avoir de l'image. Je trouve que je perdais de l'intérêt à juste parler devant une caméra. Au final, parler dans un micro, c'est aussi très sympa et c'est un autre format, quoi.
Donc tu racontes ta vie, tu parles de tes prises de tête. Ton premier épisode, je crois, c'est... Alors, t'as un épisode d'intro, mais ton premier épisode, tu parles de ton rapport au mec.
Ouais.
Et tu rentres deep, et puis en plus, t'es toute seule face au micro, quoi.
J'aime bien m'exprimer, j'aime bien... J'ai fait un bac L, donc j'aime bien intro, développement, conclusion et tout, tout ça, je sais faire. Et ouais, je sais pas, ça me plaît. En fait, la ligne édito de Contre-soirée, au début, je me suis dit, j'ai envie de faire 2 trucs... Soit de faire un transfert, je sais pas si je dois spoiler mon idée maintenant et que quelqu'un me la tape. Bon, faisons confiance en l'humain, même s'il ne le faut pas.
Y a pas. Enfin, pour moi, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il y a juste les idées, elles sont dans l'air. Ouais. Et puis après, ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu l'exécutes, pour moi.
J'avais envie de me dire, soit je fais un transfert avec des influenceurs, des gens que je connais, des youtubeurs, où ils me racontent un truc hyper choquant de leur vie, mais moi, je suis là juste en tant qu'intervieweuse. Et limite, on n'entend pas ma voix, c'est juste moi qui porte le projet. Et est-ce que, non, en fait, pour commencer, je ferais pas un truc où je parle de sujets qui me tracassent, de sujets du quotidien qui m'intéressent et qui peuvent intéresser ma communauté, sans qu'on parle de trucs hyper deep, justement, même si on peut y arriver. Et j'en parle librement pendant 20, 30, 40 minutes, sous un format contre-soirée qui est, du coup, un peu le truc de conversation dans une cuisine que t'as en soirée, où tu parles de sujets un peu, où tu t'étales sur le sujet. Ouais. Et du coup, je me suis dit, essayons. J'ai été contactée par Acast, qui m'a dit, on trouve que ton profil est sympa, est-ce que t'aimerais pas faire un podcast? J'ai dit, c'est marrant, les chemins se croisent, il y a toujours une raison.
Je fais des bisous à Acast, c'est mon hébergeur aussi, depuis des années.
Acast, on est tous ici avec vous.
Cédric, les copains.
On était avec eux hier midi d'ailleurs, ils sont trop sympas.
Bah oui, bien sûr.
Donc oui, on les embrasse.
C'est des anciens de chez Mademoiselle, tu sais.
Ah ouais? Oui. Bah, décidément, mais le monde est petit.
Le monde est tout petit.
Et du coup, Alix a été très sympa, a été très convaincante. Et j'ai dit, par contre, à Alix et Cédric, justement, moi, j'ai pas de grand projet de... Je vois vraiment pas ça comme un business et tout, donc je vais faire ça à la cool et on va voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, j'ai été très surprise que tout le monde soit très réceptif et que tout le monde... Moi, je voyais ça un peu comme... je trouvais pas que c'était ça, je trouvais pas ça comment dire choquant comme projet. Mmh. Tout le monde était waouh, c'est génial, bravo d'avoir le courage et trop bonne idée. Ça a été super bien reçu. On a été super bien classés. Les retours étaient très positifs. Moi, j'avais un peu la honte quand j'ai sorti justement cet épisode sur les garçons. Vraiment, j'ai upload et je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Et
t'avais peur de l'uploader.
Ouais, j'avais peur que ce soit pas très intéressant. J'avais aussi peur de ce que les gens disent, bon, t'en as pas marre de raconter ta vie. Et en fait, c'était pas ça. Les gens ont justement dit, mais j'ai l'impression que d'être toi, j'ai l'impression que tu parles, de parler avec une copine. C'est trop génial de. Et j'avoue que c'est moi ce que j'aime aussi en consommant des podcasts, quoi. Donc, je me suis lancé dedans et c'est trop cool.
Je vais me permettre de te sortir une phrase qu'un jour, un biographe très, très célèbre, qui s'appelle Gonzague Saint-Brice, qui est mort depuis, qui a fait de la biographie de plein de personnages historiques, m'a sorti parce que je comprenais pas pourquoi des trucs aussi personnels et aussi intimes. Moi, j'ai écrit un blog où je racontais la grossesse de ma femme en tant que papa. Tu vois. Et en fait, je comprenais pas, c'était en genre 2006, tu vois. Je comprenais pas pourquoi tout le monde était aussi au taquet sur mon blog, alors que c'était juste mon histoire.
Ouais.
Et en fait, le mec a dit une fois, sur une scène, j'étais scotché, il m'a dit, en fait, plus vous allez toucher à l'intime, plus vous toucherez à l'universel. Plus vous allez rentrer dans l'intime, plus vous allez toucher à l'universel. Et en fait, je sais exactement ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu parles de ton intimité, en fait, à un moment donné, tu parles à tout le monde, quoi.
Bah, c'est très intéressant. Et voilà. C'est très vrai, du coup, au final. Après, je pense que si on le pratique pas, on peut pas le savoir.
Oui.
Mais on s'en rend compte, du coup, toi comme moi. C'est vrai. Et du coup, bah, c'est génial. Parce que, au final, j'aime faire ça. J'aime parler. J'aime étudier un peu, décortiquer un peu ce qui se passe dans mon quotidien. Et que ça touche et que ça parle à, du coup, beaucoup de gens. Bah, c'est génial. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Donc, c'est trop cool.
Trop bien.
Surtout, on se fait des retours d'expérience. On avance, j'ai l'impression, un peu ensemble, donc c'est génial.
On revient un peu à cette histoire de sens, j'ai l'impression. T'arrives à 25 ans à te dire,
Exactement. Ok,
peut-être qu'il est temps de mettre du sens dans ce que
je fais. Ouais, j'ai un peu des moments où j'aime beaucoup divertir, j'aime beaucoup, tu vois, et même faire des contenus un peu fun et plus légers et tout, et faire des photos en vacances et trucs. Mais il y a aussi des moments où je suis assise dans mon canapé. Après, je pense que ça arrive dans n'importe quel métier pour n'importe quelle personne, où je suis assise le dimanche soir et je me dis, mais quel est le sens de la vie? Genre, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, faut que je me concentre pour me dire, je vais trouver, c'est bien ce que je fais. Et du coup, ce genre de projet me réconforte dans ce que je fais.
Et moi, je trouve ça trop cool que des youtubeuses, des youtubeurs se lancent dans le podcast parce que je trouve que, tu vois, la jeune génération, j'imagine, tu vois, que tu dois avoir un public qui a entre 15 et 25 ans.
Exactement.
Et effectivement, ils sont tous abreuvé par la vidéo et comme tu disais au départ le tout vidéo etc. Et en fait tu finis par te flinguer le cerveau à vouloir être tout le temps devant un écran et que effectivement et je sais qu'il y a un peu un côté vieux con mais en fait je sais que c'est très dur par exemple tu vois moi j'ai deux filles qui ont 16 et 14 et en fait c'est très dur pour elles de se mettre au podcast parce qu'elles se disent non mais il n'y a pas de vidéo quoi tu vois
alors que vraiment.
Et quand des youtubeurs ou des youtubeuses comme toi viennent vers le podcast pour dire en fait je vais vous amener à découvrir un petit peu le format audio, c'est trop bien, voilà.
Bah merci, mais c'est très vrai et c'est ce qui s'est passé quand j'ai annoncé que je commençais. Il y a une dame qui faisait des podcasts qui m'a écrit pour me dire je suis dégoûtée, t'as déjà ton pain, t'as déjà ta plateforme, donc laisse du pain aux autres. Et au début je me suis dit est-ce que cette dame a raison comme d'habitude, est-ce que c'est vrai? Et en fait, quand j'ai fait le podcast, j'ai eu des dizaines de messages qui me disaient j'en avais rien à foutre de ce format, je m'y intéressais pas du tout. Et grâce à ça, parce que t'as de la visibilité et que du coup j'aime bien ce que tu fais, j'ai découvert. Et du coup, j'ai écouté des dizaines d'autres podcasts et j'adore. Donc là est toute l'utilité.
Bien, moi je te dis merci. Voilà.
Je te dis de rien. Et j'espère que cette dame a eu des auditeurs grâce à moi et qu'elle est contente aujourd'hui. Parce que je pense foncièrement qu'il y a de la place pour tout le monde, surtout sur une plateforme comme un média comme le podcast où. Il y a encore de la place, à mon avis. Franchement, on n'est pas du tout arrivé, qu'à la moitié. Donc,
mais en plus, si tu regardes par rapport au marché américain, au marché anglophone, etc., il y a beaucoup moins de Français qui consomment des podcasts qu'il y a d'Américains qui consomment des podcasts, en part, si tu veux. Donc, bien sûr que c'est au contraire, c'est encore le bon moment pour se lancer. Et c'est comme si, je sais pas, tu fais des vidéos et en fait, il y a de la place sur YouTube et c'est pas parce qu'il y a plein d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube qu'à un moment donné, tu vas venir piquer le pain des autres youtubeuses ou des autres youtubeurs, quoi.
Écoute, c'est la vie.
C'est leur vie. Mais ouais, en fait, je voulais aussi te parler de la façon dont t'as géré à la fois tes études, tu vois, et ce statut. Je sais pas à quel point t'avais décidé d'avoir un parcours spécifique par rapport à la création de ton entreprise et à ton activité. Comment ça s'est passé?
C'est très intéressant parce que c'est très, quoi, graduel. Pour moi, du coup, vu que c'était un hobby vraiment avant, je me suis jamais dit business is business, on va faire de l'argent et tout. Pas du tout, c'est pas du tout le thème. Donc, j'ai vraiment juste continué de le faire parce que je trouvais ça sympa. J'ai même été j'ai été blacklistée par YouTube pendant 5 ans. Donc, je gagne, ouais, parce que j'avais fait un peu des clics frauduleux sur mes propres publicités. Ah ben, à la voix, j'avais 14 ans. Donc,
oui, bien
tu
sûr.
Mets un enfant de 14 ans.
Je te juge pas.
Qui se dit, ah, je peux faire des centimes en me cliquant dessus.
Ouais.
Ça m'a plu et YouTube a dit non. Donc j'ai été ban de la monétisation de AdSense, ouais, qui monétise les YouTubers. Je sais pas si c'est le cas.
C'est encore AdSense. Cas, ouais.
Donc pendant 5 ans, littéralement, j'ai pas touché un centime grâce à YouTube. Et quand j'ai eu 20 ans, donc ça faisait déjà longtemps que j'étais indépendante et tout. Il y a une agence qui s'appelle Studio 5 actuellement, qui s'appelait à l'époque.
C'était Studio 71.
Ouais.
C'est ça.
Qui m'a dit. On a envie de te signer. J'ai dit ok, bah débloquez-moi. Et du coup, ils ont contacté YouTube et ils ont trouvé un moyen de me débloquer. Il y avait des pétitions et tout. Je me rappelle à quel point ma communauté est sympa. Il y avait des pétitions, elle est trouvable encore actuellement, qui s'appelle pour que Anna soit enfin monétisée et gagne de l'argent. Vraiment, ils sont en mode donnez-lui de l'argent.
Est-ce que t'avais fait une vidéo, c'est ça, pour
leur dire? J'expliquais, je disais les gars, j'adore, j'arrêterai pas, mais juste je gagne pas un copec. Mais du coup, ça prouve que voilà, j'en avais un peu rien à foutre et j'étais pas du tout en mode entrepreneuriat et tout. Après, je pense qu'au final, ça reste de l'entrepreneuriat, même si je me disais pas, ok, le business plan est celui-là et tout. C'est que j'avais envie d'avancer, de développer des concepts, de réfléchir, de machin. J'ai fait une année de LEA avant de faire mon école de com, où là, j'étais complètement perdue. Donc après, je me suis dit, il faut que je sois plus cadrée. Et en découvrant la communication, j'ai découvert par mes cours tout ce truc de strat, de est-ce qu'on peut parler de moodboard, de machin, de trucs, est-ce que visuellement ça c'est intéressant, de graphisme. J'ai développé voilà plusieurs skills aussi en communication, à l'oral et tout. Et du coup, j'ai un peu quadrillé tout ça, mon contenu, je pense qu'il est devenu un peu plus qualitatif. Et puis là, c'est en effet depuis 3-4 ans où vraiment je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir cette plateforme entre les mains, de pouvoir en faire un vrai business, tu vois, de pouvoir développer ça, de pouvoir apprendre aussi plein de choses. Plus en plus, je réfléchis à l'avenir, à ce que je peux construire et à où est-ce que je peux aller grâce à tout ça, quoi.
T'as eu des déclics, je sais pas, ou qui t'ont fait dire à un moment donné, ok, en fait, je peux en faire mon métier? Ou c'est venu vraiment graduellement?
C'était vraiment très graduel. En vrai, c'est très, très progressif. Souvent, on me dit, mais à partir de quel moment t'as explosé? C'est quoi la vidéo qui t'a fait décoller? Et j'ai pas du tout ce parcours-là, moi, du coup. J'ai vraiment un parcours, au fur et à mesure où ma communauté elle s'est construite vraiment au fur et à mesure. Je suis pas genre il y a une situation qui a vraiment décollé d'un coup, ouais, ou quoi, pas du tout. Du coup, en effet, ça a été vraiment du coup très doux et du coup au final pas du tout traumatisant. Je pense que juste là, le moment où j'ai compris que ça pouvait être mon métier, c'est quand j'ai pu gagner de l'argent et me payer mon loyer quand j'avais 18 ans et demi grâce à ça. Mais en fait, je me rappelle que je disais que j'allais commencer les études parce que c'était obligé pour moi,
ouais,
et je me disais si à la fin de mes études déjà, Instagram existe toujours. Et s'il y a encore 3-4 personnes qui veulent bien me suivre, je réfléchirais à en faire mon métier. Mais pour moi, c'était irréel, c'était impossible. Et juste au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui avaient à l'époque 18 ans avec moi bah, avaient 19, 20, 25, tu vois, grandissaient avec moi. Et que du coup, on avait les mêmes préoccupations, les mêmes envies. Et qu'en fait, ça marchait encore et que moi, ça me plaisait encore, quoi.
Ouais. Donc tu t'es petit à petit construit une conviction, c'est ça?
Fait l'idée que ça pouvait devenir ma vraie activité. C'était un peu mon rêve et ma carotte de à la fin de mes études, peut-être qu'il y aura ça. Et du coup, quand j'ai compris en quatrième année que ça allait sûrement être possible, c'était très joyeux pour moi, quoi. Et du coup, je l'ai pris très au sérieux.
Ok. Et tu t'es servi de tes études d'une manière ou d'une autre pour pour YouTube? Comment ça s'est goupillé?
Donc la communication, in fine, je trouve que c'est
oui,
les études qui sont les plus... Ou alors peut-être l'audiovisuel et tout, mais c'est quand même des études qui sont très liées à ça, in fine. Dans mon école, j'avais des périodes de stage de 3, 4, 5, 6 mois. Donc j'ai plus ou moins réussi à chaque fois à faire des trucs qui étaient liés à mon activité. J'ai fait un stage en radio, j'ai fait un stage en agence d'influence pour essayer de comprendre tout ça aussi de l'autre côté, ce qui est très enrichissant du coup et ce qui permet encore une fois mon souci de vouloir comprendre les choses, je comprenais mieux. Et j'ai réussi, mon école a été aussi très sympa de me laisser faire mon stage pour du coup mon auto-entreprise,
okay,
qui est aujourd'hui une société. Mais où du coup j'ai pu développer ça et avoir les deux chapeaux aussi, les deux casquettes, je sais pas, les deux casquettes. Et parce qu'en effet, il y a un moment où ça devenait un peu compliqué. Je faisais mes montages en cours et tout, quoi. Donc ça devenait un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai eu le droit de faire des stages pour moi-même et du coup de développer cette activité, quoi.
C'est le fait que TF1, donc Studio 71, ouais, à l'époque, c'était une filiale de TF1, ouais, que TF1 soit venu te voir, qui t'a aussi fait prendre conscience que, ok, il y avait peut-être moyen de.
Ouais, exactement.
Mais t'avais combien d'abonnés à l'époque?
Je sais pas. Franchement, j'avais peut-être 100 000, 200 000. Okay. En vrai, j'ai, ouais, 200 000, je sais plus. Mais ouais, c'était gratifiant et un peu rassurant de me dire, je me rappelle à l'époque, il y avait aussi un démol qui avait fait une série, j'ai oublié tous les noms, où j'étais avec Théo Gordy, Antonin et tout, on était Awesomeness TV.
Ok.
Et du coup, on faisait des tournages dans les studios à Paris et tout, donc, enfin voilà, c'était un peu, je découvrais que tout ce monde-là, il y avait vraiment, genre, à l'époque, avoir une équipe de prod sur un tournage, c'était incroyable, il y avait une maquilleuse, on était choqués, enfin, alors que maintenant, c'est vraiment une industrie à part entière, quoi. Oui. Et du coup, je me suis dit, en fait, ouais, c'est tout un monde qui peut potentiellement être un métier, quoi.
Je t'entendais dire dans une vidéo, là, attends, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, où tu disais, putain, en fait, j'en peux plus, je suis dans ma chambre en train de me filmer, en fait, mon ring light, il est cassé, j'en peux plus. C'est marrant parce qu'il y a, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu ambigu chez les youtubeurs et chez les youtubeuses de, ok, en fait, tu démarres dans ta chambre, tu vas monter la prod de plus en plus et tu vas avoir de plus en plus, bah, tu vois, de matériel, de gens qui vont venir t'aider, etc. J'en parlais avec Patrick Beau, tu vois, et qui me disait, mais moi, je pourrais plus jamais revenir dans ma chambre parce qu'il a créé des émissions, lui, aujourd'hui. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu voudrais, toi, augmenter la prod, c'est ça, de tes vidéos?
Bah, c'est un peu ce qui est reproché souvent aux influenceurs qui fonctionnent bien, c'est de dire, les gars, vous gagnez beaucoup d'argent et vous nous faites encore un peu croire que vous êtes dans votre chambre, vous êtes chez vous tranquille, très simple et tout. Moi, je trouve que de toute façon, moi, en tout cas, mon quotidien, je me le vois pas le passer à Dubaï dans des jets et ça m'intéresse absolument pas. Donc, quoi qu'il arrive, mon quotidien, il sera simple. Mais je pense que par le biais de mon authenticité, ma communauté, elle comprend le fait que j'avance. Elle a un peu envie que j'avance et moi aussi j'ai envie d'avancer. Je trouve que c'est bien de rester simple avec des formats comme celui-là, même si on a du matériel et tout, et que même si c'est fait en studio, ça restera, tu vois, la personne elle est authentique, peu importe si je filme ma vidéo YouTube dans un studio de fou avec un fond vert et tout, on s'en fout. Si je te parle simplement, j'ai beau avoir une belle, là on a un projet qui se monte actuellement, j'espère qu'il va se tenir. Une vidéo où on veut une énorme prod dessus et tout. Je trouve que justement, c'est bien, ça montre que je m'amuse et que j'essaye de proposer aux gens de mieux en mieux, même si filmer avec Marine Light cassée dans ma chambre à Lyon, c'est aussi un contenu sympa. Je crois qu'il faut de tout pour que ça fonctionne. Okay. Et je trouve que c'est bien d'évoluer, sans dire que je peux pas enregistrer mes podcasts par terre sur mon tapis, dans mon salon, tu vois. Mais en effet, peut-être que des fois, quand même, ça fait du bien de se mettre dans des conditions un peu sympas, quoi.
Il y a plein de vidéos où t'as parlé de ton rapport à ton poids, ton rapport à ton image, etc. C'est un vrai, vrai truc où, pour le coup, tu parles vraiment, enfin, tu parles très vrai, quoi. Tu racontes vraiment tes bails. T'as l'impression que les réseaux sociaux, et d'une manière générale, YouTube et le fait de se mettre en scène, t'ont fait du mal à l'image que t'as de toi-même?
Je sais pas trop. J'hésite un peu parce que, à la fois, j'ai des gens qui, maintenant, actuellement, c'est bon, c'est fait, je suis là, tout va bien. Mais on va dire pendant la période de construction, quand t'as 18, 19, 20 ans, à la fois, j'avais des gens qui me complimentaient, des gens qui me disaient tous les jours, j'adore ce que tu fais, je t'adore en tant que personne et tout, ce qui n'arrive pas dans la vraie vie, tu vois. Donc ça, c'est pour ma confiance, c'était top. Et à la fois, j'avais aussi des gens pas gentils, qui disaient des choses pas gentilles. Et du coup, je pense que ça a fait que dans ma façon d'appréhender les autres, j'ai toujours une étape d'avance où j'essaie toujours de prévoir dans ma tête ce que tu vas penser de moi, ce que tu vas te dire de moi. Parce que c'est ce que je fais pour me protéger et pour pas subir, quoi. Donc du coup, des fois, je peux être un peu trop dans l'appréhension, enfin pas dans l'appréhension, mais dans la... Je me laisse pas assez... Je me laisse pas assez aller, mais juste, ouais, j'analyse toujours les situations et je prévois toujours ce qui va se passer, pas forcément en positif, pour me protéger de tout ça, ce qui est dommage. Et en même temps, ça m'a permis aussi de m'exprimer sur plein de trucs différents, de me construire moi aussi ma confiance en moi. À la fois, des fois, j'en ai ras-le-bol de voir ma tronche, parce que je vois vraiment ma tronche en non-stop. Je me demande même ce que ça fait de les gens qui se voient que dans un miroir, la chance. J'en peux plus de me voir partout tout le temps. Et en même temps, du coup, ça fait que je me connais bien et que je pense que ça m'a donné envie de me protéger, de m'apprécier, d'autant plus de me construire un peu, tu vois, une forteresse pour moi me protéger, me sentir bien avec moi-même, pour accepter ce qui se passe autour et me dire c'est pas grave.
Ok. Et dans ton rapport au corps en particulier ?
Parce que bah, ça, c'est un vrai j'en truc ai beaucoup pour parlé, les... ouais. Et pour les femmes et pour les pour jeunes les filles, femmes, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe parce que bah, le regard des autres, enfin le poids en fait est très important, j'ai l'impression. Et puis en plus, moi j'ai grandi dans une phase où vraiment c'est la minceur était vraiment prônée et où on laissait pas trop de place à. Enfin, c'était, il y avait pas trop d'ouverture de discours sur ça. Je trouve que l'un des avantages de TikTok, c'est qu'on en parle beaucoup, je trouve. Même si globalement, c'est un problème de voir des physiques parfaits souvent et de se comparer et tout. Je trouve qu'on ouvre beaucoup le discours sur ça. Les filles s'expriment beaucoup sur le fait qu'en effet, personne, enfin, on n'est pas parfaite, en fait, ça n'existe pas. Il faut que tous les corps soient représentés et tout. Ça, c'est top. C'est fait, enfin, ça fait partie des bonnes évolutions des réseaux. Moi, j'ai eu une phase quand je suis partie en Erasmus. Donc en plein milieu de mes études, je suis partie à Zagreb pendant 6 mois. À la fois c'était le paradis parce que je faisais que faire la fiesta, je me régalais, et à la fois j'ai pris 10 kilos en 6 mois. Donc quand je suis rentrée, je me ressemblais plus trop. Et puis même ça faisait 1-2 ans que je buvais beaucoup, que je sortais beaucoup. J'étais étudiante et j'étais pas qu'étudiante à moitié, quoi. Et donc du coup je me suis retrouvée à être...
Quand tu me dis j'étais pas qu'étudiante à moitié,
ah ouais,
c'est
bah
surtout
parce que...
t'étais pas fêtarde qu'à moitié.
Ouais. Oui, mais j'étais le package complet, quoi. Et ça plaisait aussi aux gens, hein, au final.
Bien
mais
sûr.
Ce qu'on m'a aussi reproché quand j'ai eu un changement un peu l'inédito, du coup après cet Erasmus, il y a eu le Covid et du coup en fait j'ai réfléchi beaucoup, j'ai grandi. Où au début les gens, il y avait une partie de ma communauté qui disait un peu bah pourquoi tu bois plus des pintes le mardi soir et t'es plus aussi déglingué qu'avant. Faut grandir, il faut évoluer. Après, chacun va où il veut.
Ouais.
Mais voilà, je le fais de façon différente. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette période où j'ai pris du poids et où ça a été très compliqué parce que du coup, j'ai été confrontée au regard direct des gens et aux commentaires. Là, c'est là où j'en ai souffert. Mmh. À où les gens me disaient, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Oulala, mais elle a pris énormément de poids et tout. J'en étais arrivée au stade où j'avais bloqué le mot grossi, poids et machin de mes commentaires.
Dans les commentaires
parce
YouTube.
Que je pouvais plus voir ça. J'ai fait beaucoup l'autruche sur tout ça. Je pense que ça a été assez compliqué psychologiquement, même si je me l'avouais pas trop. Et il y a eu le Covid, qui a fait que je me suis remis dans une routine beaucoup plus saine. En fait, au final, prendre du poids, c'est pas grave du tout. C'est juste que j'étais dans une phase où ma santé n'était plus au top, quoi. Vraiment, ça n'allait pas.
Ta santé mentale.
Voilà, ça n'allait plus. Oui. Donc le Covid a été un mal pour un bien, parce que du coup, au final, d'être mise au vert un peu pendant 2 mois, ça m'a permis de me recentrer. Et donc là, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fait une vraie découverte du sport, de l'alimentation et tout, j'ai vraiment commencé à kiffer ça, et à en parler, et du coup, j'ai pris une ligne édito complètement différente, je suis passée de l'étudiante fêtarde un peu border, mais à la fois relatable, tu vois, où je me dis oui, bah moi aussi, à une jeune femme plus qui prend plus soin d'elle, mais à la fois qui parle aussi du fait que c'est normal d'évoluer, c'est normal de changer... C'est normal, c'est humain, et du coup, je pense que ça a été sympa, ça a été sympa aussi pour ma communauté de suivre aussi cette évolution-là, quoi.
Ça prépare la trentaine, moi, je te le dis.
Ah ouais?
T'es en train de préparer la trentaine, okay. Et bientôt, ça va partir.
Bientôt, ça va être quoi?
Tu vas partir en retraite, là.
Ah ouais? Non, bah, la trentaine, non. Mais je me demande si un jour je vais faire du contenu. J'ai écouté ce podcast dans 10 ans, si je ferai du contenu maman et tout, je sais pas si je serai mère un jour, mais si je le suis, est-ce que je me dirais, oh là là. À l'époque, j'étais encore innocente et je croyais que...
Mais si t'es maman, tu vas pas pouvoir faire autrement que de parler de...
Est-ce que je serai encore ici? Est-ce que je serai encore sur les réseaux sociaux?
Tu crois que tu pourrais couper?
Je sais pas. C'est un sujet.
Ouais.
Je sais pas si... En fait, je pense... J'ai envie d'évoluer tout le temps. Je peux le faire, du coup, avec ça. Je pense que je peux avoir un Insta, un podcast et tout, je peux documenter ma vie tout le temps, mais je pense qu'à un moment il va falloir autre chose. Est-ce que ce sera une nouvelle plateforme ou est-ce que ce sera de créer quelque chose d'autre, de créer un, tu vois, j'ai envie de créer pourquoi pas une agence, de créer pourquoi pas une autre entreprise, tu vois, de
un
développer.
Truc qui dépasse un peu quelque
Exactement.
Part, c'est ça. Et tu vois par exemple, moi je pense à toutes les les youtubeuses qui sont devenues mamans, tu vois, et qui ont commencé à axer leur vie sur, enfin, leur contenu sur leur vie de maman, justement. Et c'est vrai qu'il y a toujours une transition un peu bizarre où, bah, t'as toutes les nanas, peut-être, ou leur public un peu plus jeune et qui dit, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, j'ai pas envie de, que tu parles de maman. Et en fait, je trouve que, au final, tu finis toujours par, trouver un autre public, quoi. Exactement. Tu vois, t'as des gens qui s'en vont, t'en as d'autres qui arrivent.
Ouais, en fait, la question est aussi, est-ce que j'aurais envie de me montrer, moi, tu vois, d'être au devant de la scène pendant encore 10 ans. En même temps, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, genre des fois, je sais pas, il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, ah si, parce qu'il y a une youtubeuse que j'adorais, qui s'appelait Emma Dolly, qui a arrêté, qui a annoncé qu'elle arrêtait définitivement toute présence sur tout réseau, parce que ça faisait plus partie de sa ligne édito, de sa ligne de vie, qu'elle en pouvait plus. Et du coup, je me suis imaginé, moi, disparaître des réseaux, et j'ai eu envie de pleurer, je me suis dit, c'est inimaginable, j'aurais l'impression de perdre vraiment, sans faire de langue de bois, de perdre une partie de, pas de mes amis, mais presque, tu vois, de ma vie et des gens qui m'accompagnent et tout, et de mes habitudes quotidiennes, donc je sais pas si c'est possible, je sais pas, on verra.
C'est d'autant plus dur que, bah, je crois que le fait que tu pleures, c'est que t'es pas prête à le faire, quoi.
Non.
Et je crois que c'est d'autant plus dur qu'aujourd'hui, ça constitue tellement énormément de ton identité, tu vois, de qui tu es, de ta personnalité, de ton travail. Enfin, tu vois, c'est tellement de choses, et depuis tellement longtemps, tu t'es construit avec ça, que je comprends que ça te fasse dire non, moi, c'est mort, quoi.
Je vais peut-être me redécouvrir un jour une autre personne.
C'est la chérie de PewDiePie, c'est ça, Martia aussi, qui a dit
ah ouais,
moi, je dégage, adieu, il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Ouais.
Mais tu sais pour quelle raison?
Bah, je crois, 30 ans, elle est devenue maman, tu vois, elle s'est dit, ok, bon, bah, allez, bye.
Bye.
Donc tu la vois de temps en temps dans les vidéos de PewDiePie. Et lui d'ailleurs, il a fait une vidéo il y a quelques temps, là je l'ai vu, où il dit que ça faisait, il y a 3 ans, il avait dit qu'il allait arrêter YouTube et qu'en fait
il a pas pu
il arrive pas, quoi.
Bah c'est bon signe, après ça veut dire que la personne est vraiment là pour les bonnes raisons, mais
exactement,
du coup, mais
et juste pour le fun d'ailleurs, il en parlait.
Ah ouais, après lui c'est bon, il a fait son patrimoine, il peut s'amuser maintenant.
Oui, c'est ça.
Ça m'étonne pas qu'il fasse ça pour le fun, hein.
Mais c'est vrai que on peut en parler si tu veux, mais ça reste aussi un métier. En fait, c'est des c'est aujourd'hui, t'as aussi cette pression de te dire, bah ok, c'est pas que juste un truc où tu t'identifies, où t'as les gens qui te suivent, etc. C'est un business pour toi, quoi. C'est devenu un vrai job.
Ouais, vraiment. Et du coup, d'autant plus avec le fait que du coup, ça me permet de gagner de l'argent et tout, j'ai d'autant plus envie que ce soit bien fait, que ce soit fait avec authenticité, avec éthique et tout. Donc c'est important d'y réfléchir, mais à la fois je me mets pas la pression de me dire si ça marche plus, je suis dans la catastrophe, parce que j'ai assez confiance, j'ai l'impression que la vie se goupille globalement bien, je touche du bois, mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il y aura une autre porte qui sera ouverte ou quoi. Donc je me dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas pour l'instant, pour moi professionnellement, j'arrive à glisser et ça se passe bien, quoi. Donc je suis pas trop, parce que j'essaie de ne pas me la mettre, parce que j'ai l'impression que du coup ça peut biaiser ma façon de faire mon contenu si je me dis tous les jours, oh là là, si ça s'arrête demain, il faut pas que je parle comme ça pour que ça plaise au maximum de personnes, il faut pas que, voilà, ce qui se fait et ça marche comme ça depuis un moment, donc il faut que ça continue à marcher comme ça, je trouve.
Ouais, et puis tu disais dans, bah, dans ton dernier podcast, je crois, si je me trompe pas, alors ce sera peut-être pas forcément le dernier quand ça sortira, mais que t'avais décidé de faire zéro OP pendant le mois d'août et de faire une vraie trêve. Et j'imagine que pour toi c'est un vrai, enfin c'est une vraie décision de business, quoi, tu vois, de te dire ok, il faut que je coupe tout, quoi.
Ouais, bah c'est important pour que aussi je trouve que pour que je garde cette appétence et cette envie, parce que je trouve que c'est un métier que si tu fais sans envie, ça se ressent, et ça, on l'a vu globalement sur plusieurs profils, quand tu perds pas la passion mais vraiment l'envie, la créativité et l'envie de le faire, ça se ressent, vu qu'on voit ton visage, on voit tes expressions, on voit ta façon de travailler, t'es exposé, tu vois, c'est toi la vitrine de ça. Quand t'arrêtes de le faire avec envie, ça se ressent, et ça se ressent, moi je l'ai vu, il y a eu des moments où j'avais un peu moins envie, et je le ressentais dans mes stages, je le ressentais dans les retours des gens. Donc je me suis dit, comme tout le monde, j'ai besoin de vacances, et j'ai besoin de, pas de vacances des réseaux, parce que c'est un truc qui me plaît et je le fais naturellement, mais de couper ça, de faire un break d'un mois, de pas gagner d'argent pendant un mois, mais j'ai prévu de faire ce qu'il fallait avant pour ne pas être sous les ponts. Et je me dis que ça peut faire aussi du bien à ma communauté. Ça leur fait un peu une coupure, même si j'essaie de faire les choses bien. Donc globalement, je pense pas que ça hante leur nuit, mes collaborations. Et aussi d'avoir de compte à rendre à personne, de faire ce que je veux quand je veux pendant un mois. C'était pas mal. J'ai aimé faire ça.
Ok.
Parce que derrière, derrière une collaboration, il y a une agence qui est Follow, qui est mon agence, qui travaille très bien. Et mon profil fait travailler un commercial, une avocate, un chef de projet, une talent manager. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière tout ça. Et du coup, je dois aussi des comptes à beaucoup de gens. Donc, il y avait un moment où j'avais envie de devoir des comptes à personne. Mais là, j'ai re-envie de devoir des comptes. Ça va. J'ai repris du poil de la bête. Les vacances m'ont fait du bien.
Ah, c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Bah, t'as été très fort globalement. En plus, tu m'as fait parler de trucs dont je parle pas, enfin auxquels je réfléchis pas.
Tu sais que pour moi, c'est toujours le signe d'une interview réussie.
De quoi? De
qu'en fait, de faire parler des gens de ouais. trucs dont ils parlent pas dans le micro d'habitude.
Bravo. Là, j'ai réfléchi à des trucs auxquels je réfléchis pas, donc c'est très bon signe parce que je réfléchis beaucoup. Non, je sais pas. Est-ce que un truc qui me questionne, c'est l'avenir de ma plateforme? Parce que du coup, j'ai la chance d'avoir construit entre guillemets un succès sur le long terme.
Sur YouTube, donc.
Sur YouTube et sur les réseaux en règle générale. Mmh. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est l'avenir?
C'est YouTube aujourd'hui ta plus grosse plateforme.
Ouais,
si je me trompe
mais
pas.
Au final, la plateforme où j'ai la plus active, ça reste Instagram quand okay. même.
Tu gagnes le plus d'argent aussi?
Oui.
Ok.
C'est Instagram. Instagram. Wow. Sympa. Non, mais Instagram, ça reste la plateforme où, et aussi où c'est plus simple pour moi d'être actif parce que c'est un téléphone, j'appuie sur un bouton. Même si j'adore travailler ce que je fais, ça reste quand même très simple et très abordable.
Ok.
Mais du coup, c'est quoi l'avenir de tout ça? C'est quoi l'avenir de ce monde-là aussi? J'ai hâte de savoir où est-ce que ça va aller. Et c'est quoi mon avenir à moi, quoi? Mais j'aime bien, je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que avec le recul que t'as en voyant ce qui se passe, comment ça a évolué toi aussi ton travail et tout, est-ce que tu penses que TikTok va manger Internet et qu'on va disparaître? Est-ce que tu penses que...
Moi, je crois que c'est très très chaud pour les créateurs de contenu aujourd'hui de pas être sur TikTok, tu vois.
Ah ouais.
En fait, je crois qu'il va y avoir deux trucs pour moi. Il va y avoir vraiment un truc où certains créateurs vont vouloir regagner leur plateforme, c'est-à-dire créer une newsletter, recréer un blog, se dire en fait j'en ai marre d'être dépendant de ces putains de plateformes qu'en plus t'alimentes et que tu fais, alors toi pour le coup tu gagnes ta vie sur Insta, mais il y a plein de créateurs qui ne gagnent pas leur vie grâce à Insta mais qui sont obligés de l'alimenter pour exister, et d'un autre côté ceux qui vont se foutre à fond dedans et qui vont rentrer dans les plateformes à fond et qui vont faire en sorte que l'internet devienne de moins en moins ouvert. Et je te dis, moi je suis sur internet depuis très longtemps, mais pour moi les blogs à l'époque c'était vraiment internet dans le sens où bah, en fait les gens pouvaient se linker entre eux, tu vois. Aujourd'hui c'est très dur de sortir d'Instagram. Instagram ne veut pas que tu sortes d'Instagram. Si tu mets un lien dans une story pour renvoyer vers je sais pas ton podcast ou je sais pas quoi, tu vas voir que ton reach il dégringole, que l'algorithme va te montrer beaucoup moins que sur les autres plateformes, que sur les autres stories. Et c'est l'une des obsessions de ces plateformes, c'est vraiment de te garder chez toi, là où pour moi internet, et c'est ça que je trouve cool dans les podcasts, en fait, c'est que tu le balances. Tu enregistres un fichier que tu postes chez Acast, et en fait, Acast, après, il l'envoie chez iTunes, enfin, sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc. Et en fait, les gens peuvent l'écouter où ils veulent. Et l'une des grosses bagarres, je crois, avec le podcast, ça va être de faire en sorte que ça reste ouvert, que le podcast reste un environnement ouvert, et qu'il soit pas, tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus, Spotify fait des exclusives chez Spotify, Apple Podcast veut se lancer dans des exclusivités, et c'est un peu la bagarre pour moi. J'aimerais bien moi que l'internet redevienne ouvert comme il a pu l'être par le passé, quoi.
Ok, je comprends. J'avais pas du tout cette analyse là.
Ouais, mais je suis là depuis longtemps, moi.
Ah oui.
Tu
mais du coup, c'est très intéressant.
Oui.
C'est très intéressant d'avoir des avis différents et à des périodes différentes.
Oui.
Mais ouais, et j'aimerais bien aussi que le podcast prenne. Alors, je sais pas toi si ça te ferait plaisir ou si ça te ferait pas plaisir, mais prennent plus de place aussi et touchent une génération comme tu me disais.
Ah non, moi je n'attends que ça. Voilà. Ouais. Que mes gamines qui ont 15 ans, elles écoutent des podcasts en fait, qu'elles arrêtent.
Et de prendre plus le temps. Et ouais.
Voilà.
Parce que là, je crois qu'il y a un dossier aussi, c'est que même les créateurs qui sont sur TikTok depuis le début et qui ont construit TikTok, j'ai vu un monsieur, un américain qui disait, je vais faire une pause parce que je crois que je me rends compte que cette plateforme, moi après j'adore, j'ai du mal à prendre du recul, mais on passe de 10 secondes à 10 secondes d'une dame qui raconte la guérison de son cancer à un chat qui tombe dans l'eau, à machin. intellectuellement, on se perd complètement. Exactement. Et pour le cerveau, ça devient compliqué, quoi.
Et là, tu vois, on a passé plus d'une heure ensemble. Les gens qui vont t'écouter, ils vont t'entendre parler longuement de ton
les
parcours,
pauvres.
De ton machin. Arrête de dire les pauvres. Je crois que cette interview est super. Ah. Et en fait, en tout cas, je suis même convaincu. Okay. Et en fait, ils vont t'entendre, tu vois, comment dire, bah justement, tu vois, je perds mes mots, mais prendre le temps de développer ton parcours, tes réflexions, etc. Et en fait, c'est ça qui, enfin, pour moi, c'est en ça que le podcast est cool.
Je suis complètement d'accord. Donc,
eh bien, écoute, on est d'accord.
Maintenons le podcast et, enfin, maintenant. En vrai, là, il y a une émergence, je trouve, globalement, depuis un moment. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, mes consoeurs et mes confrères se lancent de plus en plus et on touche une nouvelle cible. Donc,
et bah, c'est super.
Bravo.
Merci beaucoup Anna en tout cas.
Merci à toi, c'était
vraiment
de plaisir.
Tous les liens pour découvrir l'intégralité de tes réseaux, ton podcast, ta chaîne YouTube dans les notes parce que c'est ça qu'on peut faire. Tu sais,
toi, j'ai
tu
pas le vocabulaire. Non, j'ai pas le vocabulaire.
Ah bah on dit pas dans la description, ouais, tu vois, on dit dans les notes de l'épisode.
Ah bah merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup.
Avec plaisir. Petit cours de podcast pour toi si tu veux après.
Merci.
Plus.
Au revoir.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.